Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. C'est la cinquième saison du Practice RMC, votre podcast golf de référence. Pour tout savoir sur les meilleurs tournois du monde, les meilleurs joueurs, les meilleurs conseils, le meilleur matériel, abonnez-vous à notre chaîne podcast. Nos partenaires indispensables pour vous proposer ce programme, nos historiques U-Golf Blue Green et Callaway. Nous sommes très heureux d'accueillir Garmin également dans cette aventure. Bon golf et bonne écoute.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche, au sommaire de ce 17e numéro de la saison spéciale. Auditeurs, comme nous en avons l'habitude régulièrement, nous répondrons à toutes vos questions et nous allons accueillir justement quelques golfeurs dans quelques instants. La Dream Team, solide sur ses appuis. Aujourd'hui, Fabien Denoyan, U-Golf Blue Green, Ramucho Artola, notre prof de golf, le Golf Blue Green de Pessac et notre éditorialiste Simon Dutin. Salut à tous les trois.
Salut les gars.
Salut les gars.
Encore vous, cette semaine?
Oui.
C'était déjà le cas la semaine dernière lors de l'US Open.
Je sais que les auditeurs ont beaucoup de conseils techniques à me demander, donc je suis revenu.
Ah mais c'est pour ça. Mais t'as bien raison et tu pourras
technique
aussi leur répondre.
Mental.
On va te les laisser.
Et stratégique, surtout.
Allez, on accueille tout de suite notre premier auditeur.
Le Practice RMC.
Pas mal de questions, je précise, sur Instagram que je vous poserai au fil de notre discussion. Eric est avec nous. Bonjour Eric.
Bonjour Eric.
Bonjour tout le monde.
J'espère que tu vas bien. On est ravis de t'accueillir dans le Practice RMC. Eric, quel est ton index?
31.
Tu joues depuis combien de temps?
4 ans.
4 ans, oui. Ok, très bien. Et tu joues où principalement?
À Deauville.
À Deauville, très bien, tu as choisi un bon spot. Mm-hmm. Bravo à toi Eric. Quelle est ta question pour la Dream Team?
En fait, avec un ami à moi, on est en train de se poser la question de faire un fitting, mais on ne sait pas si le fitting est important maintenant ou s'il faut attendre d'avoir atteint un certain niveau pour pouvoir faire un fitting.
Ok, très bonne question et qui revient assez régulièrement sur le fitting, sur le côté indispensable du fitting, ça je pense qu'on a déjà répondu, mais à quel moment il faut le faire? Est-ce qu'au bout de 5 ans, quand on joue 31, c'est indispensable? Ramucho.
Bah, Eric, il n'y a pas du tout d'inquiétude de ton côté. Si tu sens que tu peux faire un fitting, il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est que quel est ton objectif pour le fitting exactement? Avoir des clubs qui te conviennent, etc.
C'est ça exactement, mais je me pose la question de savoir s'ils me conviendront maintenant, si je fais le fitting maintenant, mais si je progresse dans un an, est-ce que je dois changer de club de nouveau? Le fitting n'aura servi à rien en fait.
Ah, alors déjà, il faudrait que tu aies déjà, je pense vu ton niveau, tu as un swing stabilisé, donc tu peux tout à fait faire un fitting. Maintenant, effectivement, si c'est un bon fitter, si tu as affaire à quelqu'un de sérieux, il va intégrer forcément tes progrès en vitesse, en appui, etc., en centrage. Donc, il va te donner des clubs qui ne vont pas durer une petite saison ou deux ans. Donc, il va imaginer tes progrès par rapport à ce que tu produis actuellement. Et effectivement, tu pourras conserver ces clubs plusieurs années, oui.
Non, mais ça, c'est une vraie question, parce que je me suis aussi posé la même au tout début. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je fasse un fitting maintenant?
Mais toi, t'es pas 31?
Ou est-ce que... Bah, peu importe, aujourd'hui, je suis... Pourquoi tu penses que je suis à plus, c'est ça? T'es vraiment... tu vois?
Je ne suis complice de rien, moi.
C'est beau, ça. Tu veux savoir combien je suis, c'est ça? Bon, je joue entre 15 et 18. Voilà. Mais sauf que moi, quand je me suis posé la question, j'étais comme Eric, je joue à peu près 30 et je ne savais pas s'il fallait que je prenne tout de suite des clubs parce que j'avais peur d'avoir de trop bons clubs ou justement de ne pas savoir les utiliser.
Non, en fait, c'est, quelque part, c'est même pas une... 30, tu peux être 31 en ayant une grosse vitesse de club, donc une grosse vitesse de balle. Tu peux effectivement t'éparpiller, tu peux avoir besoin de longueur, tu peux... Enfin, c'est pour ça que le fitting est hyper intéressant.
Le fitting et l'entraînement, c'est deux choses totalement différentes, c'est ce que tu veux nous dire.
Non, mais oui. Quand tu fais un fitting, et Eric, on peut lui poser la question, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, après 4 ans, je crois,
oui,
ou 5 ans?
4 ou 5.
Tu es 31, mais est-ce que tu es un vrai 31 en faisant des compétitions régulièrement, ou tu es 31 parce que tu fais pas... Ton vrai niveau de jeu, est-ce que c'est 31 ou mieux, ou un peu moins bien? Et là, le fitting, il prend une importance clé dans la progression. Parce qu'en fait, il ne faut pas voir le fitting, est-ce que je suis assez bon ou pas assez
non.
bon. C'est de dire, je vais faire un fitting parce que ça fait partie intégrante de ma progression.
Ok, Eric?
Non, mais en fait, moi, je fais des cartes à 20, des cartes à 18, enfin, ça dépend, je fais très peu de compétition, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de dispersion et... Quand j'ai fait mes nouveaux clubs, j'avais été voir un magasin qui avait un Trackman et tout. C'est un petit fitting de rien, mais il m'avait fait des clubs à peu près corrects. Mais c'est vrai que je sens que par moment, il y a des choses au niveau de la longueur, au niveau du... Je pense qu'il... Ça joue quand même pas mal.
Un bon fitting va te rendre des clubs adaptés à ta morphologie, comme l'a dit Fabien, à ta vitesse de swing et à tes tendances de balle, de trajectoire. Voilà, donc là, vraiment, n'hésite pas, Eric, à en faire un, parce que tous ces principes te seront restitués par les datas et tu auras des clubs qui te conviendront, non pas sur un laps de temps très court, mais sur quelques saisons, franchement.
Et te rassurer.
Et te rassurer, d'accord, évidemment.
Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir du, on le répète assez souvent, c'est d'avoir du bon matériel. Mais évidemment, on n'est pas là pour vous dire que le matériel, il faut le changer tous les ans, parce qu'on sait que c'est un certain prix. Mais au moins, tu as un bon matériel qui est adapté à ta morphologie. Et ensuite, tu peux prendre des cours pour justement progresser dans ton jeu. Mais au moins, tu auras le matériel adéquat, adapté à toi. Je pense que c'est ça le plus important, non, Fabien, c'est ce que tu voulais dire.
Exactement, exactement. En tout cas, oui. Fais un fitting. En plus, aujourd'hui, l'avantage, c'est que dans la plupart des golfs, il y a des journées organisées par les marques. Et les fittings sont, entre guillemets, gratuits. On prend rendez-vous parce qu'on y va dans l'optique de changer ses clubs. Donc, c'est vraiment, vraiment un bon moyen.
Et puis, le fitting, il y a une dimension qui n'est pas tout à fait technique. Pourquoi il se marre, celui-là ? Qui n'est pas tout à fait technique, parce que au bout du compte, tu démarres avec 10 modèles ou 10 ou 12, t'en élimines à chaque coup. Bon, à la fin, ils se débrouillent quand même, généralement, pour te laisser choisir entre deux clubs qui peuvent a priori te convenir. Tu choisis entre les deux avec une intuition.
Mais c'est une question de feeling.
Quand tu reçois tes clubs après les avoir commandés, il y a quand même une dimension. Tu es déjà attaché. Il y a un lien déjà à ces clubs qui sont arrivés au bout du processus de sélection. C'est décidé par de la data. Mais au final, il y a quand même, je trouve, une dimension déjà affective et qui, je pense, est importante dans le golf et la pratique.
Mais tout le monde devrait faire un fitting. Tout le monde devrait faire un fitting. C'est pas une histoire de niveau. Alors pas quand on a un mois de golf, mais après une année de golf, le monde devrait faire un fitting. C'est hyper important.
Eric, est-ce que t'es convaincu ?
Convaincu. Mais il faut faire tout le sac.
Pardon ?
Il faut faire tout le sac, du coup. Il faut faire aussi les bois, il faut faire les fers.
Profites-en. Tu essayes tout. Après, c'est toi, en fonction de ton budget aussi.
Mais t'es pas obligé de tout acheter d'un coup.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'au moins, tu sauras.
Non, 100%. Ouais.
Tu vois ?
Et les fittings de balles, c'est intéressant ou pas ?
Un fitting de balle.
De balle.
Ah oui, c'est très... Alors, c'est marrant parce que je voulais le placer plusieurs fois pendant notre discussion. Oui, c'est capital. Capital parce qu'il y a des balles avec en fonction de ta vitesse, en fonction de ton... Non, je ne vais pas rentrer dans les trucs trop techniques, ton angle d'attaque, ton loft dynamique, qui peuvent améliorer ou désavantager.
Donc, vraiment, vraiment à ce point-là.
Ah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai joué pendant très très longtemps une marque de balles américaine. Et quand je dis très longtemps, c'est 35 ans. Hein,
et je pensais. Et tu étais convaincu que.
Et je pensais que c'était la balle extraordinaire qui allait me. Je ne trouverais pas mieux. Et je suis passé en contrat chez Callaway. Et j'ai vraiment rechigné. Hein. Et en fait, je suis tombé sur une balle qui me correspondait, mais un milliard de fois plus. Comme quoi, c'est. Et si je n'avais pas changé, j'aurais continué à jouer une Titleist alors qu'elle ne me convenait pas du tout.
Ok, très bien. Non, mais c'est très intéressant de vous écouter sur les balles. Merci Eric d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci Eric.
Écoute, bon fitting et puis tu nous rappelleras pour nous dire comment ça s'est passé.
Avec plaisir.
Allez, merci, salut beaucoup. Eric, merci d'avoir été avec nous. Avant d'accueillir Alberto, notre deuxième auditeur, j'ai quelques questions sur Insta. Il y a Baptiste, index 15. Je n'ai pas beaucoup joué cette année, mais j'ai prévu de faire pas mal de parties cet été. Comment faire pour ne pas être catastrophique ?
Prendre le son. Ça, c'est un truc pareil.
Oui.
Je suis toujours...
Il a coupé.
Et franchement... C'est pas parce que, évidemment, c'est notre métier, c'est notre...
Oui, mais c'est pour ça qu'on vous pose des questions aussi.
Mais parfois, investir dans deux cours, trois cours, pour se remettre dedans, pour progresser. En fait, les gens ont l'impression qu'ils vont progresser parce qu'ils vont aller sur... regarder sur Insta les tips, parce qu'ils font aller regarder sur Facebook les tips, ou sur le web et machin. Sauf que, chers auditeurs et auditrices, les gens... qui font les vidéos, et je ne remets pas en cause, il y en a de très bonne qualité, il y en a, c'est comme tout,
mais il y en a de... On peut apprendre des trucs,
mais il y en a...
Bien sûr.
Mais Oui, mais est-ce que c'est adapté?
Voilà.
C'est ça le sujet.
Que je voulais...
C'est ça le sujet, c'est qu'à un moment donné, c'est bien beau d'aller piocher à droite, à gauche. Bah tiens, aujourd'hui, je vais essayer ça. Alors le pire, parfois ça va fonctionner. Ce qui n'a rien à voir avec l'exercice ou le type, c'est machin. Là, tu dis, tu rentres à la maison, chérie. Putain, j'ai trouvé un truc aujourd'hui.
J'ai le déclic.
Ça y est,
j'ai compris.
Et c'est ça
pas,
vous aide.
C'est facile. Ce
voilà. Voilà. J'essaie. Et en fait, c'est ça le vrai problème. Donc prenez des leçons avec. Évidemment, et il y en a des excellents partout, y compris chez nous, enseignantes et enseignants, mais c'est capital.
Juste avant de donner la balle à Ramouch, on peut préciser à celles et ceux qui nous écoutent que deux heures de cours, même si tu les sépares en demi-heure, au niveau du budget, tu n'atteins même pas le prix de Greenfield des golfs privés. Donc voilà, c'est quand même... au niveau de l'impact que ça peut avoir sur ton niveau de jeu, mieux qu'aller envoyer 125, tu vois, dans un...
Sur un parcours sur un magnifique parcours alors que t'es pas prêt.
Magnifique quoi. Que tu rêves de jouer, alors exactement. Et en revanche, on est bien placé ici dans ce studio pour, voilà... La recherche de ton prof de golf, tu vois, c'est un peu comme ton psy, quoi. Tu vois, tu fais un cours, tu vois si ça te convient. Là, on est en présence de deux spécimens, justement. Moi, j'ai eu la chance de me faire coacher un peu par Ramouch, un peu par Fabien, qui ont...
Tu préfères lequel?
Moi, les deux m'ont fait du bien parce qu'ils sont complémentaires. Tu vois, si je veux caricaturer, Ramouch, il est un petit peu dans l'accompagnement, tu vois, il va pas essayer de transformer, il va t'accompagner, il est, oui, dans l'accompagnement, dans la douceur, voilà, Fabien, il pose un pain de dynamite au pied de ton swing, il se barre en courant et il revient, il reconstruit sur les cendres. Et ces deux techniques, peut-être qu'il y a des choses qui conviennent pas
mais
aux uns
sûr.
Et qui se conviennent mais mieux aux autres. Donc il faut aussi trouver le coach adapté, mais du coup, faut y aller.
Typiquement, par rapport à la question qui est posée par l'auditeur, qui n'a pas joué et qui voudrait s'amuser, comme dit Fabien, on va prendre un cours d'une heure, mais pas pour tout révolutionner, parce que c'est pas la bonne idée. C'est juste faire un état des lieux, voilà, à aujourd'hui, voilà, au petit jeu, tu dois travailler en priorité ça, au grand jeu, tu dois travailler ça. 2 ou 3 points maximum.
Voilà, pas besoin de se prendre la tête sur 10 points.
On cible exactement là où le joueur est en mesure de progresser. Voilà, et il va trouver son compte parce qu'effectivement, à partir du moment où tu cibles ses points faibles, qui sont assez facilement reconnaissables et corrigibles, ben le joueur, il trouve son compte, il va s'amuser.
Ok, merci Baptiste pour cette question. Bah justement, on parlait de toutes les vidéos que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Il y a Laurent qui veut nous en parler, il est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Salut Laurent.
Sois le bienvenu dans le Practice RMC. Bah on merci. Écoute ta question. Je sais que c'est sur les vidéos que l'on voit sur les réseaux sociaux.
Oui, ben en fait, bon, je suis pas un bon golfeur, hein, comme beaucoup, mais au moins je le reconnais. Et je voulais votre avis comparer prendre des cours, si vous voulez, en présentiel et en vidéo. Bon, je vous explique. Moi personnellement, j'adore le contact avec les gens, et donc le présentiel pour moi me paraît important. Pour un autre point aussi, j'ai besoin de ressentir. Et donc, en vidéo, j'ai pas l'impression de ressentir cette espèce de mémoire musculaire, si vous voulez. La vidéo, je le ressens pas. Donc, par exemple, on m'a expliqué il n'y a pas très longtemps que je tournais pas ou mal. Mais bon, j'ai beau regarder la vidéo, c'est pas ça qui va faire que je vais tourner mieux. Même si je suis certain, certaines vidéos sur Instagram de 2 ou 3 coachs, parce que je les trouve très très bien, malheureusement ils sont trop loin de chez moi, hein. Il y a Laurent Cabane dans l'Est, Jean-Baptiste Gonnet dans le Sud, il y avait Amaury du Majarousse à Avignon, bon moi je suis en Normandie donc ça me fait quand même une petite trotte pour aller les voir. Et j'avoue que, enfin, travailler sur une vidéo, moi j'arrive pas bien. Je suis pas certain que ça rende autant qu'en présentiel. Après, bon, j'ai été obligé d'arrêter le golf pendant 20 ans, et là j'ai repris, et bon, je vous entendais parler juste avant. Effectivement, ce que j'ai fait il y a une semaine ou deux, j'ai pris un pro à côté de chez moi, et c'est lui qui m'a dit « Écoute, on prend qu'une demi-heure, bon, j'ai plein de défauts comme beaucoup d'autres. » On pourrait parler des approches, par exemple, où je suis à peu près certain qu'il y a 80% des golfeurs qui, comme moi, soit les tops, soit les foutent à droite. Hein. Donc, on a retravaillé une demi-heure juste là-dessus. Et je m'aperçois avec lui... Pardon ?
Il a dit qu'on avait joué ensemble. Simon. C'était gratos.
Vas-y, Laurent.
Et je m'aperçois donc, si tu veux, au bout d'une demi-heure, que ce coach, bon, qui s'appelle Henrik, m'a expliqué des trucs que tous les autres coachs avant que j'avais pris lorsque j'étais beaucoup plus jeune, ou les stages que j'ai faits, personne ne m'avait expliqué. Et lui, en une demi-heure, m'a corrigé. Enfin, corrigé, c'est pas résolu, hein, je vous rassure tout de suite, les mecs. La seule différence, c'est que j'en mets 2/10, alors qu'avant, j'en mettais 0. Donc déjà, il y a du progrès. Bon, il y a encore du travail à faire, on va dire ça comme ça. Mais il m'a corrigé des trucs, il m'a expliqué des trucs qu'on m'avait pas expliqué avant. Et lorsque je regardais les vidéos, je savais pertinemment l'erreur que je faisais, à savoir, bon, bah, c'est les mains qui travaillent alors qu'il ne faut pas que ça travaille. J'ai joué avec un pote qui, lui, est, a un chiffre d'index, qui me disait la semaine dernière, mais écoute, c'est ce truc-là. Je lui dis, je sais, sauf que je n'arrive pas à le corriger. Et là, le fait d'avoir quelqu'un en présentiel qui te montre, qui te tient à la limite, je trouve que ça avance plus vite. Alors, je suis peut-être un cas à part, mais c'est comme l'amour virtuel sur les portables, si vous voulez, sur les téléphones. Moi, ça ne m'a jamais intéressé, ça ne m'intéresse pas plus. Moi, j'ai besoin d'un contact.
Donc, la question, c'est de savoir si un peu les vidéos peuvent nous aider à progresser. C'est un peu ça, quand même. Ouais, si voilà. Prendre un cours à distance, ça peut avoir un effet. Ramucho.
Alors, comme disait Fabien, toutes les vidéos que l'on peut voir sur YouTube, sur les réseaux, elles sont toutes intéressantes. Il y a rarement de bêtises qui sont dites, énoncées, présentées, etc. En revanche, une seule vidéo, tu te bases sur une seule vidéo, ça remplacera pas un vrai coach ou un formateur en présentiel. Par contre, une bonne formation en ligne, elle est structurée si elle te propose un accompagnement de te revoir, voilà, comme les trois que tu as nommés, ils vont faire un état des lieux et ils vont te proposer de te revoir la semaine d'après dans 15 jours. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un suivi. Et là, effectivement, tu peux t'engager. Il y a une forme d'engagement vis-à-vis du coach vis-à-vis de l'élève. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un suivi, quel que soit le coach, quel que soit ton choix, tu ne pourras pas rester coincé sur une seule vidéo. Voilà. Et effectivement, si tu as un suivi, tu auras un feedback de sa part, tu auras un feedback de l'élève. Et là, effectivement, ce sera efficace et vous avancerez.
Oui, ceux que j'ai cités, effectivement, ont l'air de proposer des suivis. Bon, le peu de vidéos que j'ai vues d'eux, en plus, ils ne se prennent pas au sérieux. Donc, ce n'est pas un truc avec un cours magistral.
Non, bien sûr.
Je prends Laurent, par exemple, quand il rate, il se marre, mais il n'enlève pas la vidéo. Il dit « Ok, j'ai merdé, attendez, bougez pas, on recommence ». Donc, le golf, ça doit aussi être décontracté. Bon, je ne serai jamais champion.
Surtout. Fabien.
Alors, déjà, Laurent Cabane fait partie de mes meilleurs amis. Donc, je peux en parler facilement. Donc, évidemment que c'est bien. Ce qui est proposé, même par JB Gonnet. Et voilà. Donc, prioritairement, je mettrai ces deux personnes. Maintenant, il y a un truc fondamental au golf. Fondamental, c'est la balle. C'est ce que fait la balle. C'est ce que fait ta balle. Et ça, c'est parfois hyper compliqué à retranscrire au travers d'une vidéo. Donc, bien évidemment, moi, je te conseille très fortement d'aller... Et en plus, là, visiblement, tu as trouvé un enseignant qui te convient, qui t'a donné des choses qui te plaisent. Donc, autant investir dans le... Et tu l'as dit toi-même, j'aime le contact, il y a des gens comme ça. Moi aussi, je préfère une leçon, si je devais prendre une leçon demain, en physique, parce que je peux échanger, parce que je peux poser des questions. Tiens, mais pourquoi tu m'as fait ça? Tiens, mais alors, est-ce que ça a une incidence là-dessus? Voilà, donc la réponse, quelque part, donc, tu l'as donnée dans ta question.
Et puis, si je peux ajouter, il y a quand même tout ce qui peut graviter autour de... Il y a les conseils techniques, il y a la théorie, Fabien l'a dit. En plus, parfois, tu vas taper ton shot et le pro derrière toi va te dire « Regarde ta balle, la trajectoire, regarde... » Et ce que moi, j'aime beaucoup, quand je vois Ramounj, par exemple, à Pessac, c'est que tu vas taper 3 shots, ça rentre pas, les conseils, tu les appliques pas. Bon, Ramucho, il te dit « Allez, pousse-toi », il attrape le club. Toi, tu es quand même à 50 cm. Et voilà, et il te montre à la fois ce qu'il faut faire, et souvent, il te montre à la fois ce que tu fais, ce que tu ne fais pas bien. Et le fait d'être quand même, de le ressentir. Il y a même le contact du club dans l'herbe. Il y a le bruit de la balle lorsqu'elle sort. Moi, je pense que c'est difficilement remplaçable par la vidéo. Je pense que la vidéo, encore une fois, Fabien a raison, il y a d'immenses coachs et professionnels et qui, évidemment, peuvent faire progresser. Mais je pense qu'on ne peut pas remplacer voilà, la proximité.
Non, mais tu peux faire les deux.
Oui, oui.
Tu peux faire les deux. C'est-à-dire que tu peux. Aymeric, il est dans quel golf ?
Laurent ?
À Saint-Julien, c'est à côté de Deauville, si tu veux, c'est à 15 okay. km de Deauville.
Okay. Mais après, voilà, peut-être que tu peux prendre avec lui et puis prendre un truc avec Laurent. Enfin, tu peux combiner, mais ça remplacera jamais le moment où le pro ou la proette te voit taper la balle, voit ce que fait ta balle, comment. Oui, en présentiel, bah c'est primordial.
C'est oui, un peu le sentiment que j'en ai, si tu veux. Quand on parle de tourner, moi, j'ai l'impression de tourner. Mais en fait, les autres en face, ils me disent « Bah non, tu tournes pas ou alors tu tournes mal. » Mais tu t'en rends pas compte puisque, tu vois, il n'y a pas de contact.
Mais surtout, Laurent, il faut vraiment que tu retiennes une chose, si c'est vraiment fait avec amour, passion et qualité, quelle que soit la correction qu'on va apporter sur ton jeu, il y a toujours un parallèle mis sur le jeu, sur le parcours. Voilà. Tu ne pourras pas rester sur le practice, travailler sur le practice, de façon fermée, clôturée, sans qu'il y ait un reset sur le parcours. Oui, voilà.
Et un suivi avec un pro sur le parcours.
Sur le parcours, voilà, on travaille ça, parce que sur le parcours, quand tu attaques un green, voilà, par exemple, il faut toujours qu'il y ait en parallèle le jeu, Laurent.
Ok.
Oui, non, mais ça, on est bien d'accord.
Merci, Laurent, d'avoir été avec nous. Et à bientôt.
Ben de rien.
Et bon progrès.
Au revoir, bonne journée.
Merci.
Merci, au revoir.
Avant d'accueillir Alberto, promis, on va l'accueillir dans quelques instants. J'ai une autre question d'Adrien qui nous dit « Cet été, je ne pourrai pas prendre l'intégralité de mon sac. Je vais juste prendre 5 ou 6 clubs faute de place. Lesquels vous me conseillez ?»
Ben, on va aborder déjà les extrêmes. Hein, un driver ou un bois 3 si tu ne drives pas, mais au moins un driver et un putter. Voilà.
Okay.
Après, au milieu, je ne sais pas, je mettrai un fer 7. Donc, on en a 3 clubs. On monterait...
Un fer 5 quand même, non ?
Non, vers un hybride plutôt. Un hybride.
Okay.
Et derrière, le sandwich le plus ouvert et un fer 9. Voilà, on est à 6, je pense. Voilà. Pour équilibrer. Voilà.
Ok. Est-ce que tu fais aussi, toi ? Par exemple, si tu pars l'été avec quelques clubs ?
Ah bah, je pars pas.
Ouais.
C'est-à-dire que tu pars pas ?
Bah, si je pars avec mon sac complet...
Voilà.
Non, mais imaginons que tu puisses pas prendre ton sac complet, tu prends pas.
Ah, je suis honnête. Okay. Déjà, moi, j'ai un truc très compliqué. Enfin, très compliqué. C'est que j'ai une grosse vitesse de... Comment dirais-je ? De club. Et donc, il y a les clubs de location, mais ça ne m'amuse pas parce que c'est trop souple et tout ça. Mais non, moi, jouer au golf avec 4 clubs, ça me...
Ok, t'aimes avoir ton sac.
Bah ouais, j'aime avoir mon sac. Ah, c'est...
Mais je suis pareil que toi.
C'est une partie
j'ai du mal à en laisser.
C'est une longue partie de ma vie, mes clubs de golf.
Ouais, ouais.
Très longue. Et ouais, j'ai beaucoup de mal à jouer. Et je prends beaucoup moins de plaisir à jouer.
Si t'as pas tout ton sac.
Si j'ai pas
mes clubs. Mais je comprends ça.
Je suis d'accord. Mais si t'as la moitié d'un sac, tu peux aussi développer ton sens créatif.
Mais t'inquiète, mon
sens créatif. Oui, mais pas faire que des pleins swings, créer des trajectoires.
C'est-à-dire que quand je joue avec Simon, on joue tous les deux, notre sens créatif, je peux te dire un truc, c'est qu'à un moment donné, t'en as 90 mètres à droite, l'autre 4, et on s'envoie des messages. C'est bon, tu l'as trouvé ?
Alberto est avec nous. Salut Alberto.
Bonjour messieurs.
Salut Alberto.
Merci d'être avec nous. Quel est ton index, Alberto ?
9.
9, très bien. Tu joues depuis combien de temps ?
Oh, pas loin d'une trentaine d'années maintenant.
Ok, et tu joues en général ?
Dans l'Essonne, à Étiolles.
Très bien, très beau département. Bravo Alberto. Quelle est ta question ?
Mon questionnement est surtout sur le haut niveau, au niveau national, professionnel. Ça fait maintenant plusieurs années, on a certains joueurs, Victor Pérez, Cousseau, Sadier, mais on n'a pas une grande locomotive. Je crois que le dernier joueur français à avoir joué en Ryder Cup, ça doit être Victor Dubuisson. Et quand je vois certains pays nordiques qui, eux, ne jouent que 6 mois dans l'année, eh ben, ils arrivent à sortir quand même des joueurs à très haut niveau. Je sais bien que les jeunes, ils vont jouer dans les universités américaines, aussi bien les leurs que les nôtres, mais... Il manque quelqu'un, une locomotive pour vraiment... On ne voit pas dans les majeurs, on a encore vu ce week-end, les deux Français n'ont pas passé le cut. Mais c'est rare, quoi, qu'on ait quelqu'un. Il nous manque quelqu'un pour lancer ce sport, je pense.
Bah, là, pour le coup, sur le constat, on est assez d'accord qu'il faut une locomotive. C'est vrai que, déjà, je pense que la victoire de Mathieu Pavon a fait beaucoup de bien, le premier Français à avoir gagné sur le PGA Tour. Mais il faut aussi un champion français qui performe régulièrement sur le circuit et qui s'installe. Est-ce que dans la coulisse, est-ce que vous entendez des petits jeunes là qui sont en mesure peut-être de devenir de grands, grands espoirs du golf de demain?
On en a eu un qui a été naturalisé récemment.
C'est vrai.
Greenberg.
C'est vrai. Ouais. Merci les gars.
Est-ce que vous avez entendu...
Le constat, forcé de reconnaître que Alberto, tu as raison. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on parle un peu des filles, parce que chez les filles, que là, on fait un constat masculin. On fait le golf français. Les filles, il y a des vraies locomotives. Il y a eu un grand chelem gagné il n'y a pas si longtemps.
Elles sont trois sur le PGA.
Elles sont trois sur le PGA et de manière récurrente, j'ai envie de dire. Voilà. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le golf français, par la fédération, centre de performance. On va aussi recruter des joueurs à l'étranger et pour leur donner la nationalité. Donc, ça se fait dans tous les sports, donc je vois pas pourquoi ça serait pas dans le golf. Oui, il y a une vraie belle génération qui arrive là. On a vu pendant l'US Open un gamin de 17 ans. On a vu des jeunes amateurs performer. Ils ont fait un gros tournoi. Là il y a des gamins qui rentrent aux États-Unis, filles et garçons, qui ont un très gros niveau. Maintenant, on ne va pas quand même balancer dans les orties ce qui a été fait depuis longtemps. On a eu de très bons joueurs et parfois, ça ne se met pas dans le bon sens. Maintenant, on ne peut pas... Moi, je déplore effectivement, mais je le déplore plus pour eux. Alors, égoïstement pour nous, on pourrait dire, mais surtout pour eux, parce qu'il ne faut pas croire que les joueurs ou joueuses qui sont sur le DP ne se donnent pas tous les moyens pour réussir. Donc, et ce n'est pas un manque de talent non plus. Parfois, ça sourit, parfois, ça ne sourit pas. Et puis, il y a d'autres nations, et puis il y a d'autres talents. Et puis, voilà. Mais moi, je ne veux pas qu'on soit critique, et Dieu sait si je suis capable de l'être. Mais... Oui, ça va tomber. C'est générationnel, en fait. Et quelque part, le plus doué ou le qui a été 13e ou 15e ou 19e mondial, je ne sais jamais d'ailleurs pour Victor, lui, il a décidé de faire autre chose. Et j'ai envie de dire, c'est sa vie, personne, il a l'air très heureux. Ouais. Donc, le niveau, il n'est pas moins fort. L'investissement, il n'est pas moindre. Mais parfois, dans une carrière, c'est ta semaine ou c'est ton mois et tu performes et tout d'un coup, il se passe des choses différentes. On va prendre un exemple. Mathieu Pavon qui gagne sur le PGA Tour. Enfin, c'est insensé dans l'absolu. Derrière, il fait des choix. Ce sont ses choix. Enfin, on n'a pas à les juger. On peut avoir un avis, mais on n'a pas à les juger. Moi, je trouve que Mathieu joue extrêmement bien au golf et qu'il n'est pas insensé de penser qu'il peut ou planter encore cette année ou faire un... Voilà, le niveau est là. Et je pense que c'est beaucoup plus culturel que ça dans le sport en général. Et dans le golf, où on est quand même très bien placé. Nous, on est des vieux golfeurs avec Ramucho. Du talent, il y en a toujours eu. Mais il y a eu très longtemps... je pense que ce manque de... On veut aller gagner à fond. La culture américaine, ça fait quand même pas des décennies que les joueurs et joueuses en sortent. Donc, il va falloir être un peu patient.
Mais je pense que maintenant, il y a beaucoup plus de moyens donnés aux jeunes qu'auparavant, à l'époque de Thomas Lovett et ainsi de suite, et qui réussissaient plus que maintenant, alors qu'ils ont beaucoup plus de moyens pour réussir.
Alberto, moi, avant de donner la balle à Ramon, il faut quand même rappeler... on salue quand même souvent ici que c'est un sport qui s'universalise, qui a pris quand même, qui a déployé ses ailes au niveau mondial, parce que il y a 30 ans, ça jouait au golf aux États-Unis, au Royaume-Uni, et ça commençait à jouer à peu près en Espagne. T'as rappelé qu'on peut s'étonner de des performances de certains pays nordiques, rapport à leur population. Mais bon, là, c'est des pays qui produisent...
Et leur culture.
Oui, mais c'est des pays qui produisent des résultats miraculeux dans d'autres disciplines, qui est meilleur que la France en athlétisme, par exemple. Ouais. Et on s'en est souvent étonné. Alors là, c'est des problèmes de cuisine selon les fédérations. Mais je pense qu'il y a un travail au niveau de la fédération, au niveau de l'accompagnement des jeunes joueurs, des jeunes joueuses, qui n'a jamais été aussi sérieux. Et je pense que, à mesure que la densité de niveau dans le golf mondial a considérablement augmenté, celle, malgré tout, du golf français a, elle aussi, considérablement augmenté. Elle s'est épaissie. On n'a jamais eu autant de joueurs aussi forts parce que, encore une fois, on existe sur le PGA Tour, on existe, on joue des majeurs. Il faut quand même se souvenir que, mis à part Van de Velde qui a failli gagner l'US et Avray qui a failli gagner le British et Grégory Avray qui a failli gagner l'US, on n'a jamais existé. Enfin, je veux dire, moi, depuis que...
Jean Van de Velde, hein.
Oui, c'est ce que je dis. Jean Van de Velde a failli gagner le British. Mais je veux dire, on n'était pas invité. On ne jouait pas les tournois du PGA. On ne se demandait pas si on allait arriver sur le PGA. Je veux dire, on existe. Peut-être que ça n'avance pas assez vite. Mais
j'ai l'impression que maintenant les jeunes golfeurs, et d'ailleurs je crois qu'il y en a 4 hein, là qui partent en université américaine, et on sent qu'il y a beaucoup plus cette culture et cette approche de les former, de faire de la post-formation en France et ensuite.
Oui, puis attention, le niveau. Enfin, encore une fois, je reviens sur mon US Open il y a 15 jours là, le niveau stratosphérique. Les amateurs, il y en a quand même un paquet qui ont passé le cut. Mais ceux qui ont quand même brillé, puisqu'ils ont fini, il y en a deux qui finissent à plus 5, enfin pardon, c'est quand même pas n'importe quoi. Enfin, le niveau de jeu, c'est incroyable.
Non, je crois que le niveau de jeu a beaucoup augmenté, oui. Mais... même dans les amateurs, ça c'est indéniable.
Il y a beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus forts qu'avant. Quoi.
Simon a cité des exploits personnels de Jean Van de Velde, de Thomas Levé, etc., de Greg Avray au US Open. Bon, ça, mais c'était quand même plutôt un exploit personnel. On se disait, bon, c'est un coup d'épée dans l'eau, d'ailleurs, ça ne suit pas. Désormais, il y a deux repères, deux phares, où là, on peut dire éventuellement que le golf français avance ou stagne. C'est les 10 places libérées par le PGA Tour via le DP. Donc, tant que l'on aura 1-2 joueurs qui se battent dans les 10 pour passer sur le PGA Tour, ça avance. Et deuxième repère, les joueurs qui sont sur le PGA Tour. Actuellement, il y a Adrien Sadier et Mathieu Pavon. Voilà. Et bien, effectivement, à aujourd'hui, au mois de juillet presque, et bien, ils doivent se battre pour maintenir leur carte. Donc, là où je pourrais dire que le golf français avance, là, on pourrait dire que le golf français ne doit pas s'inquiéter. C'est si on a toujours cette passerelle où tu as 2 joueurs, 3 joueurs qui peuvent intégrer le PGA Tour et ceux qui sont sur le PGA Tour qui se permettent de conserver leur carte. Voilà, là, c'est maintenant ces 2 repères-là. Si on est dedans, eh bien, effectivement, on avance. Et la base, elle sera solide. Et là, effectivement, on pourra avoir accès aux majeurs, ce qui n'est pas le cas par souci de catégorie actuellement. Mais je suis persuadé que ces 2 phases-là, ces 2 repères, ces 2 phares, il ne faut pas passer à côté.
Et tu parlais d'exploits personnels pour certains joueurs. Il y a quelques jours, j'écoutais un podcast avec Grégory Avray qui racontait une anecdote où il avait fait une partie avec Rory, une dernière partie d'un tournoi, et où il avait terminé derrière Rory, mais voilà, il était la semaine d'après avec son coach, et voilà, il lui dit, ouais, Rory...
Coach mental.
Exactement, c'était pas mal, on a joué avec Rory, bon, j'étais derrière, voilà, il raconte l'histoire, et son coach lui dit, non mais... mais vas-y, moi je t'entraîne plus, moi. Là, t'es en train de jouer la cagole avec Rory McIlroy. Et juste parce que t'as joué avec Rory, t'es content ? Mais non, mais faut battre Rory. Et j'ai trouvé cette anecdote.
Alors, c'était pas tout à fait ça, si tu me permets.
Vas-y.
C'est qu'en fait, il arrive sur le tournoi suivant, il est au practice. Et en fait, il est en train de viser 100 mètres et il discute avec le prep mental.
Oui.
Et vas-y, machin. Et effectivement, il parle de Rory et il continue à faire. Et
il n'en met pas, il en met pas une dedans.
Et il touche pas le truc. Et l'autre le regarde, il lui dit stop, on arrête. Mais pourquoi on arrête ? Il dit mais attends, c'est où tu m'expliques ta partie avec Rory et tu joues pas ? Ou tu me dis termine mon entraînement et on en parle tout à l'heure. Et c'est là où Greg dit je me suis fait bouger parce que. Parce qu'il trouvait.
Il y a aussi cette dimension où il s'était cru arriver en se disant je joue avec les meilleurs, c'est déjà bien.
Oui,
alors que l'autre est en train de lui dire,
exactement ça,
tu veux gagner
ça.
Ou tu veux juste jouer comme mais ça de temps en temps avec les meilleurs.
Mais c'est un, ouais, c'est culturel. Un peu culturel.
Oui, mais c'est pour ça, je pense que ça, ça change.
Oui,
aussi.
Mais ce qui change aussi, c'est que Greg Avray a une part prépondérante auprès des jeunes meilleurs amateurs, filles et garçons, mais plutôt garçons, et que cette anecdote... Déjà, il faut avoir le courage de la partager et qu'il va faire en sorte que les futurs champions voient les choses différemment.
Et que ce ne soit pas un aboutissement de jouer avec des cadors, mais de les battre.
Bien sûr.
Il est d'ailleurs, il est parti avec les U18, avec trois jeunes au Japon, là, avec Benoît Telleria aussi, je crois. Trois jeunes aux U18 au championnat du monde.
Tout à fait.
Oui.
Et juste pour
terminer...
connais
un peu pour ça.
Si on parle des acteurs actuels des pros français, j'ai eu le privilège de suivre la Coupe des Capitaines le week-end dernier à Seignos. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un tournoi de haut niveau avec des joueurs professionnels du Tour. Alors là, au niveau de la frappe de balle, la trajectoire, j'ai été soufflé par le niveau intrinsèque, technique, tactique, tout ce que tu veux, des joueurs français. J'ai été vraiment, sur un parcours comme Seignos, absolument bluffé par le niveau de jeu qu'ils doivent reproduire, évidemment. Sur les parcours.
Alors imagine ceux qui gagnent tout le temps, toutes les semaines.
Ils sont pas loin.
Merci Alberto d'avoir été avec nous. On t'embrasse et à bientôt.
Merci
dans le Practice RMC.
Merci.
On va accueillir Romain dans quelques instants. J'ai juste une question, tu es un peu plus légère. Philippe qui nous demande quel est votre parcours préféré en France. Qui veut y aller?
En dehors des parcours, golf et Blue Green, tu veux dire.
Non, mais bon, on peut.
Royan.
Royan, ok, parce que tu as eu l'habitude de jouer là-bas.
Mais non, mais c'est sa grand-mère qui l'a mise au golf.
Non, mais d'accord, mais si...
C'est avec le cœur, évidemment.
Non, mais c'est un parcours extraordinaire dans les pins et très difficile, très challengeant. Il n'y a pas un trou qui se ressemble. C'est un vrai petit paradis.
Tiens, il complète sa question avec s'il faut en faire un dans sa vie, lequel il faut faire en France.
Je botte pas en touche, mais il y en a, je ne sais pas, en région parisienne. Ça va être l'une de mes bases, mais en région parisienne, il faut faire... Il y en a tellement. Allez, il faut faire. On va prendre Nord, Chantilly et Sud, Fontainebleau. Voilà.
OK.
Voilà. Mais bon, il y en a tellement. Il y en a tellement qu'on ne peut pas décréter comme ça. Il faut faire ce parcours. Voilà. Après, il y a des affinités avec tel dessin, tel environnement, etc. Mais décréter comme ça, c'est le parcours à faire. Mais les classements que l'on voit, numéro 1 de
monde. Non, mais la question, elle est plutôt. Je la trouve plutôt très sympa, la question.
Ah oui, mais.
Moi, je me fais engueuler pour Philippe à ta place en plus, alors que j'ai rien fait, j'ai juste voulu te mettre en avant, vas-y.
Spontanément, je sais pas si j'ai un parcours en France,
alors, il y a la même chose.
Non, c'est un peu faussé, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir joué des parcours. Moi, j'ai vu Augusta, donc c'est en France.
Alors tiens, un U-Golf à faire, déjà. Si tu en conseilles un.
Alors moi, si je conseille un U-Golf et un Blue Green, je conseille Courson.
Oui, ça de français.
Ouais. Et je conseille Pléneuve-Val-André.
Ok, donc Pléneuve-Val-André, c'est là où il y a l'Open de Bretagne, on en parlait il y a quelques semaines. Courson, c'est dans le 91.
Ouais. Et c'est une belle signature, c'est un Vonag, c'est magnifique.
Ce qui est très sympa à Courson, c'est qu'il y a quatre parcours, quatre neuf trous, et vous les composez un petit peu comme vous voulez selon.
Mais après, il y a des très beaux golfs, tu vois, il y a des Valescure, des Sainte-Maxime, et puis après, si plus largement, parce qu'on va pas parler que du golf et Blue Green, mais il y a les boards.
Si on exclut les U-Golf et Blue Green, lequel tu mettrais en avant comme ça? Lequel t'auras envie de jouer demain?
Le parcours originel des boards.
Ok.
Faire un tour à Chiberta, c'est rarement une mauvaise idée également. Hein. On peut conseiller aux gens d'aller voir.
Le golf des S, qui est absolument. Il est né avec la nature. Enfin, on a l'impression qu'il a toujours existé.
Okay. Il est né avec la nature.
Oui. Ça, c'est beau. On va s'arrêter là-dessus sur cette question de Philippe. Romain est avec nous. Salut Romain.
Bonjour messieurs, ravi d'être avec vous.
On est très heureux de t'accueillir, Romain. Quel est ton index?
18-7.
Ok, 18-7, tu joues depuis combien de temps?
Je joue depuis 4 ans.
4 ans, et tu joues où principalement?
Crécy-la-Chapelle, le Crécy Golf Club, sur le beau parcours Vignoli dessiné par Arnaud Palmer.
Ok, quelle est ta question?
Ma question, alors en fait, je joue globalement et principalement des 9 trous parce que enfin voilà, la vie de famille, la vie professionnelle fait que et en fait je m'aperçois que j'ai beaucoup de mal à maintenir un niveau de performance sur 18 trous Et au final, j'en arrive presque à la conclusion de me dire c'est presque deux disciplines et deux pratiques totalement différentes. Et pour te faire un petit clin d'œil, Jean-Christophe, j'ai presque systématiquement l'impression de prendre des contre-pieds parfaits sur le retour du 18 trous.
Ça, c'est juste une private joke pour les nuits du casar enchaîné, pour ceux qui ne suivent pas. Très bien, oui, je comprends très bien. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même niveau de performance sur un 18 et sur un 9. Et surtout, si on est habitué à jouer un 9, quelle est ta question précise? C'est quoi? C'est les deux façons d'appréhender un parcours de golf?
Ouais, mais en fait, c'est tout à fait ça. En tout cas, dans mon cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui pratiquent majoritairement du golf 9 trous, on a l'impression, enfin, dans mon cas, j'ai l'impression que c'est presque pas la même discipline. L'usure mentale, l'usure physique, maintenir un niveau de constance sur 18 trous. Et en fait, je retrouve quasiment jamais sur 18 trous mon niveau de performance que je peux avoir sur 9.
Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, Ramucho, à notre ami Romain?
Ben, il a tout dit, c'est vrai qu'il y a une usure mentale, le rythme il peut être chaotique si on attend souvent, donc le jeu peut se déliter, est-ce que, évidemment il y a la gestion de l'énergie, est-ce qu'il s'alimente, est-ce qu'il boit, voilà. Donc c'est le double, vous me direz, c'est facile, mais on peut évidemment performer sur 2 heures, mais performer sur 4 ou 5 heures, c'est pas que le parcours est plus difficile, c'est qu'il est plus long, donc l'impatience peut arriver, le manque d'impatience de ce qu'on attend, l'accumulation des coups, voilà. Donc c'est vrai que ce 18 trous, c'est si on compare le marathon et le semi, voilà. Donc c'est vraiment 18 trous, c'est juste une gestion du parcours. Je sais ce que je dois beaucoup plus anticiper que sur un 9 trous.
Mais quand tu as plus l'habitude de faire des 9 trous, et non, moi mais... ça peut m'arriver, c'est vrai qu'avec la vie de famille et tout ça, parfois tu n'as pas le temps de pouvoir faire des 18, est-ce que tu es quand même un golfeur? Est-ce qu'à vos yeux, on est considéré comme un golfeur même si on ne fait que des 9 trous?
Alors moi, ça fait 3-4 ans que je ne fais que des 9 trous. En voiture, parce que j'ai envie que ça aille vite.
En voiturette, hein, t'es pas avec le 4x4.
Oui, en motocross aussi, parfois.
Donc non, après, ouais, je ne suis pas tout à fait... T'es 18, mais tu joues vraiment 18, même sur tes 9 trous. Tu joues mieux, tu joues moins bien. Quels sont tes points faibles? Parce qu'en fait, 9 trous ou 18 trous, le challenge est le même. Alors oui, alors physiquement, il faut être... il vaut mieux être bien, surtout sur certains parcours. Mais moi, c'est plutôt ça qui me... La question que je te pose, c'est est-ce que tes 18, tu les joues mieux, un peu moins bien, mais de quelle façon surtout?
En fait, 18 trous, je suis nettement moins performant. Mais
après, tu réponds pas à ma question. Qu'est-ce que tu rates et qu'est-ce que tu réussis?
En fait, je sens que déjà, physiquement, j'accuse le coup parce que j'ai pas d'entraînement de longévité sur 18 trous. Et après, ce qui me fait très très mal souvent, c'est le rythme, en fait. Où ça a été évoqué à juste titre, je joue 9 trous sur un rythme plutôt rapide, et parce que pareil, ça m'arrive aussi très souvent de vouloir jouer vite, de prendre une voiturette. Il y a le rythme me fait mal. Après, mentalement, j'ai aussi beaucoup de mal à passer le cap du 9, et généralement sur mes cartes on le voit tout de suite sur 10, 11, 12 voire 13 où j'ai un énorme passage à vide, et après j'arrive à remonter un petit peu, et généralement je me réécroule sur 17, 18.
Donc t'as un problème de régularité?
Ouais, mais que j'ai pas sur 9.
Par exemple, un 9 trou, tu joues combien?
En moyenne, je joue entre 6 et 9.
Oui, et sur 18, du coup, en moyenne?
Et sur 18, honnêtement, j'ai du mal à faire...
T'es au-delà des 20
sous les... Ouais, non, mais j'ai même du mal à faire sous les 25. Hein.
Ouais, mais là, c'est plus... Là, c'est... Alors, c'est un problème technique. C'est-à-dire que ton irrégularité, ou en tout cas le fait que tu n'arrives pas à consolider ça sur 18 trous, oui, il peut y avoir un problème physique. Le mental, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est le problème technique qui pèse sur le mental et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce que tu rates des coups que ton mental, il devient, il devient problématique. Mais quand tu joues bien, personne ne se dit « Oh, mon mental, non ». Donc là, moi, ce que je comme ça, hein, je ne sais pas comment tu tapes, je ne sais pas comment tu... Mais c'est plus un problème de régularité. Et la régularité, ça ne vient que d'une seule chose, c'est du centrage de balle. Et ce centrage de balle, il suffit que tu... si tu joues plus 6, par exemple, sur les 9 premiers, qui est plutôt bien pour quand on est 18 d'index, et que tu as plutôt bien centré la balle, et que tout d'un coup, tu en prends une dans le talon ou dans la pointe, et là, ça devient catastrophique. Mais le problème, il est technique. C'est-à-dire qu'il n'est plus du tout ou mental ou physique, parce que quand tu es bien sur 9 trous, et que tu me dis 10, 11, 12... C'est pas les 3 trous supplémentaires qui vont entamer ton physique. Ou alors, il a été entamé 3 trous avant.
C'est une question de régularité.
Donc, le vrai sujet, oui. c'est un sujet de régularité et donc de centrage de balle.
Ok. Romain, est-ce qu'on a répondu à ta question, mon ami ?
Oui, oui, bah ça me donne une nouvelle clé parce que moi j'étais vraiment sur une barrière psychologique de pas avoir de repères sur 18 et de sombrer totalement.
Je vais te donner un petit conseil hyper simple pour regarder ton centrage de balle. Tu t'achètes un marqueur, tu colories ta balle de manière assez, tu fais un gros trait, donc tu prends un marqueur assez gros, tu fais un gros trait sur ta balle. Tu mets cette balle avec le trait face à ta face de club, tu tapes et tu vas voir où tu contactes la balle. Et tu verras tout au long de t'en prépares 3-4 et tu essayes. Et là, tu auras un super repère et ultra concret.
D'où vient ton
problème. Et si effectivement, à un moment donné, tu vois que ton contact se détériore, le problème, il est vraiment technique, il est ni mental ni physique.
Ok.
D'accord.
Et du coup, pour faire le lien à ce que dit Fabien, c'est vrai qu'à l'accumulation de mauvais contacts, de mauvaises trajectoires, évidemment, ça te puise de l'énergie et effectivement, que tu deviens plus friable et plus fragile à tout ce qui peut se passer autour de toi.
Merci Romain, on t'embrasse et continue d'écouter les nuits du Casar enchaîné si t'es infidèle.
Et le practice évidemment. Merci à vous, bonne continuation.
À bientôt et bon golf. Tiens, j'ai une petite dernière question de Hugues. À mon avis, c'est pour Simon, même si c'est pas spécifié. Est-ce parfois salvateur de péter un plomb sur un parcours plutôt que de tout garder pour soi ?
Eh bien, mon expérience m'a appris que non. Voilà. Comment s'appelle notre
Hugues.
Je le déconseille à Hugues parce que moi, ça ne m'a jamais vraiment fait bien jouer, mis à part les fois où on en avait déjà parlé ici, où sur une petite séquence, tu vas taper un shot en te disant « bon, je m'en fous, j'ai envie de rentrer à la maison ». Et puis là, tout d'un coup, c'est bizarre, tu te mets à taper le shot que tu as attendu de taper toute la journée. Non, je déconseille à tous celles et ceux qui nous écoutent de le faire. Moi, ça ne m'a jamais fait mieux jouer. Et je remercie d'ailleurs et Ramuncho et Fabien qui sont ici présents parce qu'encore une fois, dans un style différent, ils m'ont aidé à travailler sur ces petites sautes d'humeur parce que Ramuncho t'aide à... Je ne veux pas voir ça. Mais il te remet dans ce que tu sais faire. Il veut que tu crois en tes capacités. Il veut que tu think positive, tu vois. Il veut que tu te raccroches à ce que tu sais faire et il t'aide à... Voilà.
Satan et Fabien, ils se foutent ta gueule.
Alors que Fabien, tu vois, t'es vraiment... Mais vraiment, t'en peux plus. Et Fabien, il te fout la tête sous l'eau. Quoi. Il t'enterre, il dit bah, tu vas en foutre une sur le fairway parce que moi il faut qu'à 17h je sois chez moi là quand même, hein. J'ai pas toute la journée. Et au-delà de tout ça, de façon plus sérieuse, moi j'ai laissé trop d'énergie en effet sur le parcours avec à m'agacer, à me frustrer. Et Fabien m'a justement fait remarquer que tu gâches ton jeu. Ça t'empêche de jouer.
Tu fais chier les autres.
Jouer et exactement. Et non, mais tu sais que c'est très important et c'est peut-être en plus le facteur déterminant qui m'a aidé le plus parce que c'est l'aspect de mon jeu entre guillemets sur lequel j'ai le plus progressé ces dernières années. C'est qu'en effet, on m'a fait remarquer que même si tu t'énerves contre toi-même, en fait,
tu gâches un peu la partie.
Tu gâches la partie des gens qui t'accompagnent et c'est agréable. Voilà, pour personne. Et en effet, tu tires de toute façon le niveau de jeu vers le bas. Donc, je le déconseille.
Voilà. Ok. Le mot de la fin.
Ouais, moi, je pense que c'est très perso. Mais en revanche, qu'on ne peut pas admettre, c'est balancer des clubs, casser des clubs. Évidemment, que quel que soit son niveau, et on le voit même à la télé avec les plus grands, il y a parfois une énorme frustration. Énorme frustration. Mais à un moment donné, on fait quand même... Nous tous, même nous, Ramuncho, c'est notre métier. mais on fait pour se faire plaisir. Donc à un moment donné, je pense qu'on a suffisamment de trucs à gérer par ailleurs. Si c'est pour aller faire une partie de golf et se prendre la tête, moi je suis halluciné parfois. Moi, il m'arrive de jouer, pas toujours avec vous d'ailleurs, à mon grand désespoir. Et je me pointe au départ. Bonjour Fabien, vous avez, oui, j'ai un départ. Tu as parfois des coupes qui se pourrissent. Alors moi, ça me fait rire, mais au bout d'un moment, ça me fait plus rire parce que je me dis, putain, je suis venu jouer tôt. Parce qu'après, je vais bosser. Et tu leur dis gentiment, mais détendez-vous, c'est qu'un sport. Regardez ce qui nous entoure. Voilà. Donc, gueuler une fois, merde, enfin, ce que vous voulez, ok, mais casser, balancer, mettre des... Moi, j'ai déjà vu des mecs mettre des grands coups de putter dans un green parce qu'à 12 mètres, ils n'ont pas rentré la balle. On dit, mec, détends-toi. Sur le PGA Tour, le PGA, ils ne rentrent pas tous leurs putts à 12 mètres. Donc, voilà. On reste soi-même, on peut gueuler un coup, mais dans des proportions quand même
raisonnables.
Tout à fait raisonnables.
Ok, merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour vos nombreuses questions. Je n'ai pas pu toutes les poser, mais rassurez-vous, on fera rapidement un nouveau point avec vous, les auditeurs, dans un épisode du Practice. On se retrouve début juillet, parce qu'il reste quand même un dernier majeur à commenter, et on sait qu'on l'apprécie au plus haut point. On se retrouve très vite d'ici là.
Un petit pronostic, non ?
Ah bon, on a le temps pour les pronostics. D'accord. On se reverra d'ici là.
D'accord.
Bon golf à tous, les copains.
Salut.
Puis les pronos, bien sûr. À bientôt.
Le Practice RMC.